Nous sommes avec Stéphane Charlet, le batteur et compositeur de Ozma. Bonjour.
Bonjour, salut.
Ozma vient de sortir un 7e album qui s'intitule Hyperlapse en février 2020, à la fois en autoproduction et signé également sur les labels Crystal Records et Berle Tolls Records. C'est un quintet de musique moderne jazz. Est-ce que tu peux revenir sur les débuts de ce projet ?
Ouais, tout à fait. Alors, 2001, on se rencontre au Conservatoire de Strasbourg. On est jeunes musiciens fougueux qui entrons au département jazz du Conservatoire de Strasbourg. Et on est attiré par à peu près les mêmes musiques. Et donc, à la base, Ozma, c'est un groupe de travail. Hein. On se retrouve dans la cave du guitariste et on travaille des musiques plutôt d'obédience jazz, mais assez groove, avec beaucoup de mesures impaires. Enfin, c'est un peu des... On pose les fondements de ce que sera la musique osmique. Assez rapidement, on se met à composer des chansons originales, des morceaux originaux. Assez rapidement également, on se retrouve en quintette, c'est-à-dire que en trio, on était en guitare, basse, batterie. On était un petit peu limité, peut-être, parce que c'est une forme très complexe qui demande d'être très très solide. Et puis ça limite aussi les échanges, en fait. On est, voilà, tu trouves, il y en a un qui part en solo, bon, bah, les deux autres sont obligés de jouer pour tenir un peu la baraque. Alors que quand on s'est retrouvé en quintette, ben, ça ouvre beaucoup plus de possibilités orchestrales, ça permet de jouer beaucoup de sous-groupes, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est-à-dire que d'un coup on se retrouve ensemble le trombone, la guitare et la batterie, ou d'un coup juste la basse et le sax, et voilà, donc il y a vraiment plein de, beaucoup plus de, finalement on peut beaucoup plus moduler l'ensemble. Donc en 2003, nous rejoignent un tromboniste et un saxophoniste, c'est l'instrumentarium du groupe, et donc à ce jour, donc moi je m'appelle Stéphane Charlet, je suis à la batterie, il y a Edouard Serrouillet à la basse, qui est un des membres fondateurs, enfin qui est membre fondateur avec moi, et un autre guitariste qui n'est plus dans le groupe. Le guitariste qui le remplace depuis quelques années, 5 ans, c'est Tam de Villiers. Le saxophoniste qui a également remplacé le premier saxophoniste s'appelle Julien Soro, et Guillaume Nusk au trombone, qui est aussi un des tout premiers, enfin il est là depuis le début. Donc évidemment, en presque 20 ans d'existence, la vie fait que des gens soit ont envie d'autres aventures musicales, soit carrément changent de vie, ce qui s'est passé pour nos deux copains guitaristes et saxophonistes. Et voilà, et donc là ça fait depuis 2016 que cette nouvelle équipe, cette Ozma V2 existe et parcourt le monde en fait avec notre musique.
Peut-être revenir sur cette notion de modern jazz. Donc, en écoutant ta musique, on entend bien sûr la base du jazz avec aussi tous les instruments qui y participent, mais il y a aussi une touche vraiment d'électro, puis aussi une touche vraiment très rock et très groove. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur cette notion de modern jazz qui n'est pas encore aujourd'hui considérée comme de la musique actuelle ?
Oui, alors oui et non, le jazz est justement assimilé aux musiques actuelles.
Bonne nouvelle, parce qu'il y a quelques temps,
c'est
non.
C'est une musique
quoi.
Qui est intéressante parce qu'elle est à la fois, elle a un pied dans la tradition, c'est-à-dire que si tu fais du jazz type New Orleans, tu vas vraiment être dans une répétition d'une tradition, ou du jazz manouche, tu vas jouer des grands thèmes, mais à côté de ça, il y a X branches du jazz qui se sont développées, qui se nourrissent effectivement d'autres styles. Dans le cas d'Ozma, c'est vrai que la musique électronique, la musique, le rock, le métal même, nous influence beaucoup. Et c'est que c'est une musique qui est éminemment actuelle. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau groupe naisse avec une nouvelle proposition. Donc après, le modern jazz, ce terme-là, moi, je ne l'utilise pas pour définir ma musique, mais ça me va, vu qu'on est effectivement, on se veut en tout cas dans l'air du temps, on se veut contemporain. Nous, pour pas s'embêter, on a carrément inventé un style, on a dit qu'on faisait du jazz explosif. Explosif parce que sur scène, on se permet des grandes dynamiques et on a des surprises. Donc, je ne sais pas si ça te semble bien et si ça semble coller à notre musique après nous avoir vu en live. Mais voilà, du coup, on a inventé une étiquette qui est ce qu'elle est, ou alors du jazz osmique. Ça veut encore moins dire quelque chose, et puis ça nous va très bien. C'est une musique actuelle, c'est une musique qui est moderne et qui, effectivement, s'influence de plein de genres de musique. Donc, c'est plutôt chouette.
Donc pour l'album Ozma on Fire qui était un live sorti en 2017 si je ne dis pas de bêtises, vous avez pu vous produire aux quatre coins du monde, en Chine, en Sud-Amérique, un petit peu partout. Cela a donné naissance donc à ce nouvel opus. Cet album fait référence à des villes étapes, donc en Chine ou encore en Amérique. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur ce processus de création qui est très imagé et très ancré aussi sur les cultures locales, donc sur des lieux géographiques précis?
Ouais, tout à fait. Bah écoute, On s'est toujours, dans Osmin, inspiré, on a toujours aimé se raconter des histoires et raconter des histoires à notre public. On a souvent eu des morceaux qui avaient une trame narrative, si tu veux. Ça nous permettait, nous, de nous projeter dans une histoire commune lors de la création du morceau et de comment on allait la raconter. Par exemple, il y avait des histoires de sirènes qui allaient attraper un marin qui finalement arrivait à se sauver, des histoires de lapins géants qui allaient attaquer une ville. Et donc voilà, donc on s'autorise ça dans ce groupe. Et quand j'ai commencé à composer ce nouvel album, donc Hyperlapse, en fait, finalement, avant de partir en tournée qu'on savait mondiale, parce qu'on savait qu'on allait partir au Maroc, en Afrique australe, en Afrique, donc Afrique australe, c'est Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Lesotho, l'Europe centrale, mais également plutôt en Asie, Chine, Indonésie, Inde. Donc, en sachant qu'on allait vivre tout ça avec cette équipe-là, qu'on allait partir plus de 4 mois sur la route, je me suis dit, ben, c'est un cadre parfait pour raconter cette nouvelle histoire, ce nouveau volet. Dédier des morceaux à des villes qu'on allait traverser ou qu'on a traversé, c'était un peu ce jeu d'aller-retour tout au long de l'année dans la création de ce répertoire. Voilà, pour moi, ça me semblait un très bon fil rouge, en fait, pour accompagner mes idées, mes réflexions. Donc, il y a des morceaux qui ont été écrits avant qu'on aille dans certaines villes. Il y en a d'autres qui ont été écrits après qu'on y ait vécu des histoires. Donc c'est voilà, cette espèce d'aller-retour entre fantasme et histoire réellement vécue. Hyperlapse fait référence à une technique de cinéma, en fait, audiovisuelle. C'est une sorte de stop-motion en mouvement. Tout le monde connaît le stop-motion. Quand on prend une photo avec un appareil photo qui est fixe, par exemple pour une photo d'un ciel, et toutes les 30 secondes, on va refaire une photo, et à la fin, on met toutes ces photos à la suite de manière assez rapide pour créer une vidéo mais qui a un effet un peu saccadé. Maintenant, il faut imaginer le même processus, mais en plus de tout ça, ta caméra, tu vas la déplacer régulièrement autour d'un point fixe en faisant toujours le focus sur cet objet ou cet immeuble ou ce que tu as choisi justement d'avoir comme point de focal. Et ça crée un effet saccadé et très étrange. Voilà, il suffit de taper Hyperlapse sur Internet, vous allez trouver plein d'images qui expliquent bien mieux que moi ce que c'est. Mais pourquoi nommer l'album comme ça? Pour deux raisons. Parce qu'il y a une vidéaste qui nous a suivis sur toute cette tournée mondiale et qui a pu filmer nos aventures. Et elle utilisait beaucoup justement l'hyperlapse parce qu'elle aimait bien cette technique, elle l'aime toujours d'ailleurs. Et donc elle m'a fait connaître cette technique. Et je trouvais que c'était chouette comme nom d'album parce que c'est assez rapide, ça se retient bien, c'est assez dynamique. Et en plus de ça, ça ressemblait finalement un peu à mon concept, de prendre une photo à un endroit, de se déplacer, de reprendre une autre photo, de se déplacer, de reprendre une photo, et à la fin de tout bout à bout, bah, ça raconte une grande histoire, l'histoire de cet album.
Alors, est-ce que tu peux peut-être aussi me parler de comment finalement tes quatre autres collègues, j'ai presque envie de dire ça comme ça, s'incorporent aussi dans cette création, puisque tu me dis que tu composes, mais comment chacun s'intègre aussi à ce processus créatif?
Eh bien,
puisqu'il y a aussi...
Moi, je compose chez moi, et puis... En gros, je vais apporter des partitions en répète, soit même avant les concerts. Comme c'est des bons musiciens, ils savent assez vite déchiffrer la musique et se l'approprier. Et à partir de là, on va jouer ce que j'ai écrit, voir ce qui marche. Après, il y a parfois des choses qui fonctionnent pas parce que tel instrumentiste va me dire « Oui, mais là, j'ai un problème technique parce que c'est difficile à jouer ou c'est complexe. Ou je te propose ça, ça va être mieux. » Donc déjà là, rien que dans l'arrangement des parties écrites, purs, ils ont déjà de la place et souvent ils ajustent les choses toujours en restant dans l'idée de mon morceau. Et après, comme c'est quand même une musique où il y a beaucoup d'improvisation et il y a une grande part à l'improvisation où chaque musicien peut après faire des solos et exprimer vraiment son univers, bah, c'est surtout là qu'il s'exprime le plus. Donc c'est de nouveau cette histoire de cadre. Moi, je pose un cadre si tu veux, et après eux, ils ont une palette de couleurs avec laquelle ils peuvent remplir ce cadre.
projet Ozma est porté donc par la compagnie Tangram, donc qui est une compagnie basée à Strasbourg. Est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots sur cette compagnie, donc qui est née en 2010 et qui propose autour du projet d'Ozma des ciné-concerts, des photo-concerts, des spectacles et également de l'action culturelle autour de la pratique du jazz?
Ouais, c'est chouette, c'est des questions qu'on pose rarement. Si tu veux, en 2010, donc le groupe avait une dizaine d'années, on avait commencé à créer des spectacles en parallèle de la vie du groupe, hein, qui sort des albums et qui fait des concerts, comme tout bon groupe qui se respecte. On a effectivement commencé à faire des ciné-concerts et des photo-concerts, donc c'est tous des spectacles où on mélange notre musique à d'autres arts. On a fait aussi des spectacles avec des danseurs en Inde notamment. Donc on se rendait compte que finalement on commençait à avoir plusieurs spectacles à proposer en tournée et c'est assez naturellement qu'on a eu envie de créer une structure qui allait chapeauter tout ça, un peu comme une compagnie de théâtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé la compagnie Tangram, parce que dans une compagnie de théâtre, il y a souvent une équipe artistique qui va créer des choses, et puis il y a cette espèce de structure administrative, une sorte de parapluie qui va héberger tout ça et qui va défendre tous ces projets auprès des diffuseurs, donc des gens qui programment des concerts. Donc ouais, ça nous a semblé assez logique. Donc maintenant il y a un bureau qui est à la tête de cette association et qui de cette compagnie et qui va nous aider à développer. On a aussi deux employés en fait qui nous aident, nous en tant qu'artistes, à vivre de notre art et à le faire connaître. Donc il y a une chargée de production, c'est quelqu'un qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est plutôt salaire, dossier de subvention, enfin tout ce qui est plus de la paperasse en fait, mais qui est très très important. Et puis il y a une chargée de diffusion, c'est une bookeuse en fait, c'est une personne qui va proposer nos spectacles et essayer de les vendre de par le monde. Effectivement, il y a aussi un volet action culturelle qui est très important pour nous parce que on a, comme beaucoup de musiciens au début, avant d'être entièrement, enfin que musiciens, parce que ça nous prenait beaucoup. Enfin, ça nous prend tout notre temps maintenant, finalement, de faire nos concerts et nos créations. Mais quand on était plus jeune aussi, pour mettre un peu de sous de côté, on donnait des cours. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la transmission, parce que c'est grâce à des gens qui m'ont donné leur savoir, qui ont pris le temps de m'apprendre des choses que j'ai pu grandir. Donc, j'ai envie de passer le relais un peu. Et avec Ozma, on propose régulièrement, quand on est en tournée, de rencontrer des gens. D'ailleurs, on se ferme pas que à des musiciens. Hein. Ça peut être aussi des gens, des curieux qui veulent juste savoir, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un groupe qui tourne, qu'est-ce que c'est comme expérience, Donc voilà, ça va être soit des rencontres en marge des concerts, soit clairement tout ce qu'on appelle des workshops ou masterclass, c'est-à-dire qu'on va aller dans par exemple, un conservatoire, rencontrer des musiciens qui auront peut-être déjà travaillé un petit peu sur ce qu'on fait, et on va aller un peu plus loin dans tout ce qui est technique musicale. Et en allant encore plus loin, les derniers temps, ce qu'on a fait, surtout sur des tournées très lointaines, on propose systématiquement aux organisateurs de concerts de nous faire aller dans des zones où la population n'a pas accès à la musique, parce que c'est des zones très défavorisées. Et ainsi, on a pu aller faire des concerts gratuits dans une favela au Brésil, à Rio. On a été dans un slum à Mumbai. On a joué dans un orphelinat en Guinée équatoriale. Et c'est des moments qui sont toujours très, très forts parce que voilà, on leur offre quelque chose. Ça nous fait plaisir. Et puis eux, ils nous rendent beaucoup, en fait. Et puis nous, on découvre aussi un monde qu'on voit rarement, hein, qu'on voit que à la télé. Donc on touche à quelque chose de très très beau et de très 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 humain, et donc ça, je trouve, c'est aussi très très chouette dans la vie qu'on a, de pouvoir casser certaines barrières qui seraient finalement difficiles à casser sinon.
Alors donc il y a cette question d'humanité. Est-ce qu'il y a justement une différence de perception de la musique jazz, pour revenir sur ce style musical, qu'on soit n'importe où dans le monde? Est-ce qu'on perçoit de la même manière cette musique, ou bien même finalement le fait d'être français ailleurs?
Je pense que chacun va percevoir une musique par ses biais culturels, par ses propres... par son propre background culturel, évidemment. L'avantage avec Ozma, c'est que c'est une musique instrumentale, hein. Il n'y a pas de chant, donc il n'y a pas de barrière de la langue. Donc l'avantage de la musique, on a tendance à dire que c'est un langage universel, mais effectivement, je pense qu'on pourrait aller jouer notre musique devant une tribu aborigène serait exclue du monde moderne, je pense qu'elle pourrait y trouver un intérêt. En tout cas, elle pourrait être touchée par quelque chose. Enfin, en tout cas, ça l'interpellerait. Ça, je trouve ça très, très chouette. Donc, c'est vrai que selon les pays où on a été, on a senti que les gens... franchement, on a toujours de très, très bons échos, de très, très bons retours parce que bah, tu l'as vu sur scène, on est une bande de cinq gars plutôt généreux qui rigolent entre eux. Donc, rien que ça, je pense que c'est déjà très chouette à voir.
Et puis à vivre aussi, j'imagine.
Bons musiciens, donc... Pardon ?
Et j'imagine de vivre aussi, bah, finalement, c'est presque une sorte de bœuf hein, qu'on a pu voir. Hein.
Oui, parfois, effectivement, il y a des moments où nous-mêmes, on se surprend et on va dans des contrées. Quand tel soliste fait tout d'un coup quelque chose qu'il n'a jamais fait, et ben on le suit parce qu'on se connaît bien, on s'écoute beaucoup. Et parfois, on va se retrouver à aller dans des directions qui étaient très inattendues, comme l'autre soir à Paris. Hein, on s'est retrouvé tout d'un coup à jouer une sorte de dub dans un morceau où on n'avait jamais fait ça. Et on s'est amusé de ça, donc ça c'est chouette, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de liberté. Et du coup, pour revenir sur ta question précédente, c'est... Par exemple, quand on était en Inde, qui est un pays de musique où la musique est très très importante, et c'est une musique très très savante, la musique indienne, qu'elle soit hindoustanie donc du nord ou carnatique du sud, c'est des musiques très très savantes où le rythme a une place prépondérante et à tel point que le public va être capable de compter dans les mesures impaires. Donc c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins dans nos contrées occidentales où pratiquement toute la musique passe à la radio, c'est du 4 temps. Là, ils vont être capables de compter du 7 temps et ils vont, avec leurs mains, faire des gestes où ils comptent ces mesures qui sont pas régulières et vont applaudir quand un soliste, après une longue phrase, va retomber sur le premier temps en ayant un peu déboussolé tout le monde et finalement être bien retombé. Donc, notre musique, elle s'influence beaucoup de ces choses-là aussi, de mesures impaires et de jeux rythmiques complexes. Et là, particulièrement en Inde, on a senti que il y avait aussi une compréhension plus technique en fait de notre musique et donc ça c'est très très chouette, mais en tout cas il n'y a aucun pays où on a eu un rejet de ce qu'on fait, donc pour l'instant tout va bien.
Et puis j'imagine aussi, comme tu viens de le dire aussi, c'est une source d'influence inépuisable aussi pour la création du coup, comme
évidemment, parce qu'on a découvert avec tous nos voyages des styles musicaux qu'on connaissait moins. C'est toujours beaucoup plus puissant quand tu découvres un morceau au détour d'un petit concert parce que lors d'un day-off, on te dit « Tiens, tu pourrais aller voir ça, ça a l'air sympa. » Et puis d'un coup, tu découvres une ambiance, tu vois comment les gens vivent la musique, comme je te disais en Inde, où le public compte, c'est quelque chose de très fascinant. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'interpeller, te marquer beaucoup plus fort. Dans Ozma, cet album notamment, où c'est dédié à plein de villes de par le monde, on tombe pas dans le... Un article disait ça de manière assez chouette, c'est-à-dire on tombe pas dans la facilité de l'exotisme, ou dans la tentation de l'exotisme, c'est-à-dire qu'on va pas on est en Chine, donc on fait un truc un peu à consonance chinoise avec une gamme pentatonique, on est en Inde, donc on va faire des trucs à la mode tabla. Ça peut être des petits clins d'œil par moment, mais on va pas systématiser ce truc-là. Donc c'est voilà, à nouveau, c'est un cadre, c'est un fil rouge, c'est plutôt une excuse pour raconter une histoire, mais bon, ça reste toujours de la musique, voilà, ça reste notre musique, même si elle peut faire des clins d'œil, on tombe pas dans une... on singe pas, disons, des musiques traditionnelles.
Thank you. être totalement dans l'actualité, tu as pu réaliser une release party au Café de la Danse à Paris, donc le 8 mars dernier, pour présenter cet album Hyper Lapse. Aujourd'hui, une mesure gouvernementale française interdit donc le rassemblement de plus de 100 personnes au même endroit afin de limiter la propagation du coronavirus. On vient d'apprendre que plusieurs festivals et concerts sont soit reportés, voire même annulés, comme le printemps de Bourges. Qu'est-ce que ça t'inspire? Et est-ce que, d'après toi, il y aura aussi des répercussions graves ou moins graves sur cette profession des arts en globalité?
Ouais. Ah bah, écoute, nous, c'est vrai que là, on s'estime très très chanceux parce que on a pu faire ce concert, c'était le 7 mars, hein, c'était le samedi. On joue rarement les dimanches, les gens sont...
Oui, excuse-moi.
On a pu faire cette release party, Café de la Danse, c'est 250 personnes, en plus c'était plein. Donc on a été très contents de pouvoir faire ce concert. Moi j'avais déjà peur, j'ai dit, oh là, ça se trouve, ils vont... Enfin voilà, c'est ce type d'arrêté de précaution très sage, hein, je pense, qui tombe du jour au lendemain. On avait très très peur, parce que organiser des concerts comme ça... Pour le coup, on est rarement producteur des concerts, c'est-à-dire qu'on est rarement ceux qui organisent le concert. Souvent, on vend notre spectacle, et puis c'est un festival ou un club qui a l'habitude de faire ça, qui va l'organiser, qui va. Mais là, sur une release party, il est d'usage que le groupe loue un lieu, c'est ce qu'on a fait. Donc on a loué le Café de la Danse, c'est un grand théâtre, ça coûte cher. On a fait toute la communication, on a pris en charge tous les frais, que ce soit les hôtels, les transports, les cachets, la communication, les droits d'auteur, qu'il faut payer évidemment quand tu es producteur. Donc tout ça est énormément de travail, énormément d'investissement financier. Et quand on te dit du jour au lendemain, bon, bah, t'as plus le droit de le faire, c'est une catastrophe. Moi, j'ai nombre d'amis, tu te doutes bien, qui, sur mon Facebook, je suis principalement ami avec des musiciens, je vois nombre d'amis qui doivent annuler des tournées de 15 dates. C'est une catastrophe parce que c'est des gens, il faut imaginer, monter une tournée, ça veut dire coordonner une quinzaine de lieux pour se mettre d'accord pour que les dates se suivent géographiquement de manière logique, pour que tu te retrouves pas à faire Marseille, Lille, puis Zurich, puis Nantes. Non, tu vas faire Lille, Valenciennes, Paris, puis Lyon, puis Marseille, puis aller peut-être en Italie, puis en Suisse, enfin faire quelque chose de coordonné. Donc c'est énormément de travail qui tombe à l'eau et surtout c'est plein d'artistes et de techniciens qui vont se retrouver tout d'un coup sans argent. Et comme c'est un cas de force majeure, parce que c'est un décret préfectoral, et à nouveau, je pense que c'est très très bien de l'avoir fait, parce que cette épidémie va poser un problème, on va le voir dans les prochaines semaines, hein, sans vouloir être oiseau de mauvais augure, je pense que ça va être très très compliqué pour tous les services de santé du pays et des pays du monde entier d'ailleurs, et même pour l'économie mondiale, ça va être, je pense, très très compliqué. Mais il se trouve qu'effectivement, pour parler de ma profession, on est très impacté, on s'arrête net, c'est-à-dire que moi j'ai des amis qui sont en train de finaliser leur statut d'intermittence, vu que pour ceux qui ne savent pas, en gros, il faut faire un certain nombre d'heures par période, d'un an à un certain nombre d'heures, donc ça représente à peu près 43 ou 44 concerts ou cachets pour les techniciens, et j'ai des gens qui s'apprêtaient à finaliser, ils avaient leurs 15 dernières dates, et puis c'était bon, ils pouvaient de nouveau être intermittents, et là, tout tombe à l'eau, donc pouf, ils n'arriveront pas à finaliser leur statut. Donc l'année prochaine, ils n'auront plus d'allocation chômage. Donc d'un coup, on se retrouve tout nu. Donc c'est une catastrophe. Avec Osma, on a un peu de la chance là-dedans, parce que en plus, on avait prévu de faire une grosse tournée en mars, mais on l'a décalé à l'automne. Donc là, sur les deux prochains mois, on a deux concerts qui sont déjà reportés, donc on les perd même pas. Donc voilà, nous dans ce malheur ambiant, on s'en sort pas trop mal, mais enfin de tout cœur avec tous mes amis qui ont pas eu cette chance là quelque part. Donc non, si c'est très très grave, c'est pas ça va toucher beaucoup de gens, mais c'est vrai que le monde du spectacle est vraiment frappé en plein cœur.
Où est-ce qu'on peut retrouver donc cet album Hyperlapse? Donc il y a un site internet, hein.
On peut trouver Hyperlapse sur toutes les plateformes de streaming. On travaille effectivement avec deux labels en France pour Crystal Records et en Allemagne pour Berthold Records qui travaillent très très bien. Donc on est sur, nomme-le, hein, Tidal, Napster, Spotify, Deezer, Google, Amazon, tout. On est partout. On peut peut évidemment aussi acheter le CD. Nous, ça nous aide beaucoup les artistes, donc n'hésitez pas à les acheter parce qu'on a fait un très très beau travail visuel avec un graphiste qui s'appelle Mathieu Leclerc, un Strasbourgeois. Donc cet album est en vente sur notre site, ainsi que des t-shirts et plein de choses, des petits goodies qui vont bien. Et puis surtout sur notre site osma.fr ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram principalement, @osmajazz, donc @ozmajaz. Vous pouvez suivre toute notre actualité et retrouver tous nos concerts à venir, qui seront, j'espère, pas annulés.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
And